William Edmondson, le marteau irlandais, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le rocher en morceaux? Jer 23-29. Ce qui suit est une partie d'une introduction à une biographie de William Edmondson. Edmondson était quelque peu unique en tant que ministre quakedoué. Il vécut longtemps. Il exerça son ministère principalement en Irlande, avec des visites en Angleterre et trois voyages éprouvants vers les Amériques. Il mourut de mort naturelle à l'âge de 85 ans, fait inhabituel pour un champion quake. Cela malgré plusieurs emprisonnements et de nombreux mauvais traitements. Il fut un mari et un père capable, et un ministre compétent. Il se rendait promptement auprès du gouvernement d'Irlande pour raisonner avec lui, souvent avec succès. Il fut le père de l'Église en Irlande, travaillant sans relâche à répandre et à faire mûrir l'Église dans toute l'île, dans ce qui est aujourd'hui l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Ses œuvres directes figurent dans la barre latérale. L'introduction de John Stoddard est incluse comme un résumé de la vie d'Edmondson. La prostituée et la bête s'élèvent dans la nuit de l'apostasie. Stoddard commence par l'histoire de la véritable Église, en nous montrant l'expérience de l'Apocalypse. La femme, ou vraie Église, quitta sa gloire visible et s'enfuit au désert ou dans un lieu obscur loin de la face du serpent, vers un lieu préparé par Dieu, où elle fut nourrie pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, ou 1260 jours, ce qui, dans un sens prophétique, est tenu pour autant d'années, et bien que le dragon chercha à noyer la femme. Et il y eut un grand abandon de la foi de Jésus, comme l'avaient prévu et prophétisé les saints apôtres de l'agneau. La lumière de Sion fut éclipsée et grandement voilée, ou retirée pour un temps, et une apostasie générale s'abattit sur les chrétiens de profession. La fumée du puits de l'abîme monta, qui obscurcit le soleil et l'air, et de cette fumée sortirent des sauterelles sur la terre, qui tourmentèrent les hommes. Et le dragon fut irrité contre la femme, et fit la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Et il donna à la bête monstrueuse qui montait de la mer ou du monde païen en furie sa puissance, son trône et une grande autorité, laquelle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, contre son tabernacle et contre ceux qui habitent dans le ciel. Et ceux qui habitaient sur la terre l'adorèrent, ce dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Surgit de la terre lieu plus stable que la mer une bête ayant de cornes semblables à celle d'un agneau, mais parlant comme un dragon, et elle exerçait la puissance de la première bête, faisant faire une image à son honneur, à laquelle elle avait pouvoir de donner la vie de sorte qu'elle parlait, et faisait mettre à mort tous qui ne voulaient pas adorer l'image. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne put acheter ni vendre, sinon celui. Remarquez que cette bête paraît, en apparence, quelque peu chrétienne et sous prétexte de l'autorité de l'agneau, bien qu'agissant par la puissance du dragon, dérivée de la première bête, contraint les hommes à se soumettre à des traditions et des cérémonies, tenues pour des devoirs chrétiens qui ressemblent aux coutumes des païens dans leur culte idolâtre et leur superstition. Pour avoir refusé cela et en avoir rendu témoignage contre ces pratiques, de nombreux fidèles disciples de Jésus souffrirent le martyre, comme leurs prédécesseurs l'avaient fait. Or Babylone, la mystique, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, fut exaltée et s'assit sur la bête aux 10 cornes, etc. Comme reine et épouse, prétendant être la véritable Église et l'épouse du Christ, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans la main une coupe d'or pleine d'abominations et d'impuretés de ses prostitutions, ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus. Et toutes les nations burent du vin de sa prostitution, et les rois de la terre se livrèrent à la prostitution avec elle, et les marchands de la terre s'enrichirent par l'abondance de ses délices. Mais elle tombera et deviendra une demeure de démons, un repère de tout esprit impur, et une cage de tout oiseau immonde et haïssable. Et le Seigneur appelle son peuple à sortir d'elle, afin qu'il ne participe pas à ses péchés et qu'il ne reçoive pas ses fléaux, qui viendront en un seul jour, la mort, le deuil et la famine, et elle sera entièrement consumée par le feu, car puissant est le Seigneur Dieu qui la juge. Et ses marchands se tiendront au loin, par crainte de son tourment, pleurant et se lamentant. Et comme une meule jetée dans la mer, ainsi, avec violence, cette grande ville Babylone sera précipitée. Et maintenant l'enfant mâle, le Seigneur venu du ciel, est de nouveau révélé en plusieurs de ses saints, qui par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avènement, détruira l'homme de péché, qui a opéré avec toute séduction d'injustice, par des signes et des prodiges mensongers en ceux qui périssent. Et la véritable Église revient du désert, appuyée sur son bien-aimé, et elle paraîtra de nouveau dans sa grâce et sa beauté, comme une épouse parée pour son époux. À sa lumière viendront les nations, et les rois à l'éclat de son lever, car la gloire du Seigneur se lèvera sur elle, et sa lumière y brillera à jamais. Les glorieuses prophéties des saints prophètes et serviteurs du Seigneur concernant les derniers jours doivent s'accomplir. La connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux couvrent la mer. L'abondance de la mer, où les multitudes de peuples sera convertie à Sion. Les nations afflueront ensemble vers la bonté du Seigneur et seront rassemblées à Jérusalem, celle d'en haut, pour adorer le grand roi, le Seigneur des armées, sur sa montagne sainte, qui sera établi au sommet des montagnes et élevé au-dessus des collines, et il n'y aura là ni mal ni destruction. L'agneau conduira son peuple, les fera paître dans les pâturages de la vie et les mènera aux sources d'eau vive. L'héritier de toutes choses recevra son droit et possédera les portes de ses ennemis, qui, en temps voulu, seront tous mis sous ses pieds. Il jugera parmi les nations et reprendra beaucoup de peuples. Ils forgeront leurs épées en soc de charrue et leurs lances en serpe, et se soumettront au gouvernement pacifique de l'agneau. Car il est roi des rois et seigneur des seigneurs, et de l'accroissement de son gouvernement et de sa paix il n'y aura point de fin. Et béni soit le Seigneur, beaucoup, en ce jour, ont dans une certaine mesure, été témoins de l'accomplissement de plusieurs de ces prophéties, quant à des points particuliers et savent que le Fils de Dieu est venu, qu'il leur a donné une intelligence par laquelle ils connaissent celui qui est véritable, et qu'ils sont en celui qui est véritable, à savoir Jésus-Christ, le vrai Dieu et la vie éternelle, en qui toutes les promesses de Dieu sont et seront accomplies en leur temps. Et maintenant le glorieux évangile est de nouveau prêché, en est à ceux qui habitent sur la terre, afin que tous craignent Dieu et rendent gloire à son nom, et qu'ils adorent celui qui a fait le ciel et la terre, les mers et les sources d'eau, et qu'ils n'adorent plus la bête ni son image, et ne reçoivent pas sa marque, de peur d'être jetés dans les temps qui brûlent de feu pour toujours. Car l'heure des jugements de Dieu est venue, tant sur la bête que sur ceux qui l'adorent, et sa colère est révélée du ciel contre toute injustice et impiété des hommes, qui gardent une profession de la vérité, ou de la religion chrétienne, dans une conduite injuste. Car la nuit de l'apostasie est fort avancée, surtout dans ces îles du Nord, et le jour du Seigneur est proche. L'épaisse obscurité qui a couvert le cœur de beaucoup est dans une large mesure dissipée, et la vraie lumière brille de nouveau, qui rend manifeste et met au jour tout ce qui est répréhensible en matière de religion et de conduite, dans laquelle lumière toutes les nations de ceux qui sont sauvés doivent marcher. Et le Seigneur a revêtu beaucoup de puissance d'en haut, et les a envoyés, comme il envoya autrefois ses messagers, pour diriger et détourner les esprits des gens des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en Christ Jésus. Et beaucoup ont reçu la bonne nouvelle de paix et de salut, qui leur a été annoncée gratuitement par les ministres du Seigneur, dans l'autorité de l'Esprit et la puissance de Dieu, en ce jour puissant du Seigneur. Le royaume de Dieu est venu et vient toujours davantage, et la puissance de son Christ s'exalte dans le cœur de beaucoup, à qui il appartient de régner, et bien que le diable et ses anges lui fassent la guerre et pour un temps soient autorisés à prévaloir dans les lieux obscurs de la terre, au point de détruire les corps de certains des disciples du Christ, néanmoins l'agneau et ses disciples auront la victoire, et le diable et ses anges doivent être jetés dans les temps qui brûlent à jamais. Malgré le fait que le combat de l'agneau n'est pas pour la destruction de la vie des hommes mais du péché, des œuvres du diable en l'homme, et que les armes de ses disciples ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser des forteresses, abattre les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amener captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Toutefois l'agneau, qui est aussi le lion de la tribu de Juda, a pouvoir de gouverner les nations avec une verge de fer. C'est pourquoi bienheureux sont ceux qui demeurent avec l'agneau. Or de ce nombre, nous avons lieu de croire que ce digne serviteur du Seigneur, William Edmondson, auteur du journal qui suit en était un, au sujet duquel suit maintenant un bref récit ou relation de la manière dont le Seigneur a agi envers lui dans sa conversion et son appel au ministère, et de ses fidèles travaux et souffrances dans et pour l'Évangile de Christ. De tout cela vous trouverez un ample récit et une confirmation dans les pages suivantes, tant de lui-même que de nombreux témoins fidèles. Il fut de bonne heure visité par les rayonnements intérieurs de la glorieuse lumière de ce jour d'Évangile dans son propre cœur, par lesquels son état lui était souvent dévoilé, bien que, pendant un temps, il ne comprît pas ce qu'il éclairait ainsi. Devenu orphelin jeune et ainsi exposé aux difficultés, après avoir grandi il s'engagea dans l'armée et demeura soldat quelque temps sous le Parlement, lors des dernières guerres civiles en Angleterre et en Écosse. Mais ayant des inclinations religieuses, il se lassa de ce genre de vie, il abandonna donc sa charge et retournant vers son pays natal en Angleterre, ayant auparavant été fiancé à une jeune femme du Derbyshire, il l'épousa, et peu après il vint dans la nation d'Irlande avec l'intention de s'y établir et d'y commercer. Pourtant peu de temps après, il retourna en Angleterre pour acheter davantage de marchandises, et se trouvant dans le Nord parmi ses parents ayant une inclination dans son esprit, il alla avec deux d'entre eux à une assemblée du peuple appelée Quakers, où par le ministère de quelques Quakers, lui et les deux parents furent convaincus de la voie de la vie, et son intelligence ayant été ouverte par la vérité, il perçut alors que c'était le Seigneur par son Saint-Esprit qui avait été à l'œuvre dans son cœur depuis sa jeunesse. C'est pourquoi. Ainsi, retournant de nouveau en Irlande et étant rendu disposé à porter la croix de Christ, il rencontra bientôt diverses épreuves pour l'amour de la vérité et eut un exercice d'autant plus grand qu'il n'y avait alors, dans cette nation, aucun de ceux qu'on appelait Quakers avec qui converser. Néanmoins, sa conduite et son maintien touchèrent tellement sa femme et son frère qu'ils furent bientôt convaincus de la vérité et disposés à se réunir avec lui dans sa propre maison pour adorer Dieu en esprit, quoique dans le silence externe. Peu après, quatre autres se joignirent à lui. Vers ce temps John Tiffin, serviteur du Seigneur, vint d'Angleterre, ce qui fut une force et un réconfort pour les amis, plusieurs furent convaincus et ajoutés à leur nombre. De plus, le Seigneur voulut bien ouvrir la bouche de William Edmondson dans le témoignage de Jésus. et étant fidèle, il plut à Dieu d'élargir son don pour le ministère, de sorte qu'il devint un ministre capable de Christ Jésus, habile à partager justement la parole de justice, simple et puissant dans la prédication, saint dans la doctrine et profond dans les mystères de Dieu, qui lui furent largement communiqués. Et comme intendant fidèle et bon scribe instruit pour le royaume, il sortait selon la direction de son Seigneur. Il prêcha librement l'évangile de Christ, non seulement dans cette nation où il vécut et souffrit tôt la persécution en des temps rudes, étant souvent emprisonné en plusieurs lieux, une fois environ 14 semaines dans un cachot étroit et infect parmi des criminels et des malfaiteurs, où il manqua presque d'étouffer, fréquemment mis au pilori, insulté, maltraité, et ses biens saccagés par des hommes cupides. Mais il se rendit aussi maintes fois en Angleterre, travaillant à l'œuvre de l'évangile en plusieurs endroits, et 3 fois dans les îles ou plantations anglaises d'Amérique, menant cette guerre à ses propres frais, afin que l'évangile ne fût pas à charge, et endurant des épreuves comme un bon soldat de l'agneau, se montrant un ministre fidèle de Christ, avec beaucoup de patience dans les afflictions, dans les nécessités, dans les détresses pour l'amour de l'évangile, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la fatigue et les peines, par la pureté, par la... Il voyagea souvent, en péril sur mer et sur terre, et dans les déserts tant à cause des bêtes sauvages que d'hommes sanguinaires, durant les guerres indiennes en Amérique, et à cause de voleurs, ou apparus astérisques dans cette nation au temps de la dernière calamité, qui brûlèrent sa maison et l'emmenèrent, lui et ses 2 fils presque nus en saison d'hiver pour les tuer. Mais après plusieurs jours de durs traitements, tous 3 furent, par la bonne providence de Dieu, délivrés de leurs mains. Astérisque bande, errante d'Irlandais qui portait des demi-piques, appelée Rapard. Ce vieil ami, des plus anciens, eut aussi de l'exercice et du chagrin à cause de faux frères qui s'opposaient au témoignage que le Seigneur lui avait donné de porter pour son nom, et il ne fut pas sans affliction de la part de certains de ses propres enfants. Toutefois de tout cela, le Seigneur le délivra et le conserva fidèle jusqu'à un bon âge avancé, dans la bonne comme dans la mauvaise renommée, de sorte que près de la fin, il pouvait dire que le Seigneur était son cantique et sa force. Et en vérité, il fut fort et courageux dans l'œuvre et le service du Seigneur, même après que la faiblesse fut venue sur l'homme extérieur à cause de l'âge et des infirmités, demeurant saint et clair dans son entendement jusqu'au dernier. Comme il avait un excellent don pour le ministère, il était aussi doué d'une grande intelligence et d'un don de gouvernement et de discipline religieuse dans l'Église de Christ, et ayant un esprit de discernement, il demeura ferme dans son zèle contre les choses qui s'opposaient au bon et convenable ordre dans lequel le Seigneur avait rassemblé son peuple, et contre ceux qui, sous de beaux prétextes, auraient ouvert une brèche à une fausse liberté. Le soin des Églises reposait sur lui, surtout dans cette nation où il vécut et travailla de nombreuses années, tant en doctrine qu'en discipline, et comme ancien qui gouvernait bien, il était hautement estimé des fidèles à cause de son œuvre. Il était tempérant dans le manger et le boire, décent et simple dans l'habillement, dans ses propos graves portant le plus souvent sur les choses de Dieu, tendant à l'instruction et à l'édification, son visage et son maintien viril et sérieux exprimaient une disposition d'esprit noble et religieuse. Mari aimant, père attentif et tendre, ami sûr et voisin bienveillant, porté à l'hospitalité. Et bien qu'il lui arrivât souvent d'être séparé de ses jouissances proches, comme sa femme et ses enfants, pour l'amour de l'Évangile, il régla ses affaires avec discernement, afin qu'il n'y eût pas de manque dans sa famille, ni d'occupation convenable ni de choses nécessaires. Mais sa plus grande préoccupation et son labeur est pour le bien public des Églises et la promotion en leur sein du gouvernement de Christ Jésus, pourquoi il demeura zélé jusqu'à la fin, comme il paraît par diverses paroles de lui peu avant son départ, dont quelques. Et lorsqu'après mûre considération, réfléchissant au temps passé, il fut persuadé que l'œuvre de son jour était faite, il désirait humblement, en soumission à la volonté de Dieu, être dissous et être avec Christ, pour se reposer de son labeur et de l'affliction corporelle qui l'accompagnait, ce qui, au temps du Seigneur, lui fut accordé. Maintenant, lecteur, pour conclure au sujet de cet ami et ancien bien-aimé, qui par la foi a obtenu un bon témoignage, et dont la mémoire était sera bénie parmi les justes, je vous renvoie à une lecture sérieuse de son journal ci-après. Ainsi que des témoignages rendus par des amis et frères fidèles le concernant, avec le sincère désir que la bénédiction de Dieu accompagne ainsi votre lecture, qu'elle vous incite à employer fidèlement votre temps et le don de grâce qui vous a été accordé par Christ Jésus, afin que votre... Dublin, le 26 du 8 mois, 1714. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.